Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue. Le prix Goncourt, créé pour récompenser le meilleur ouvrage d'imagination en prose paru dans l'année, est attribué presque exclusivement à un roman depuis 1903. Nicolas Mathieu, lauréat du prix 2018 avec l'ouvrage Nos enfants après eux, nous fait le plaisir d'une visite diulfitoise à la librairie Sceaux et Gambade, seulement 10 jours après l'annonce de son succès. Bonsoir Nicolas Mathieu.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous accorder cet entretien. En le préparant, je vous ai imaginé plus d'une fois dans un tourbillon médiatique immense, ballotté de plateau de télé en plateau de radio. Je vous ai imaginé du jour au lendemain être obligé de parler plutôt que d'écrire, être adulé plutôt que lu. Est-ce que c'est facile pour vous de tenir ce rôle, de prendre la parole pour décrypter, expliquer, répondre même parfois peut-être à des interrogations qui ne sont pas les vôtres ?
Déjà, je n'ai pas été adulé pour l'instant, je dois quand même le préciser. Ce n'est pas si difficile que ça. Et même si ça ne fait pas partie du job d'écrivain en tant que tel, je pense que c'est intéressant, toute cette phase de commentaires sur le livre, de questions et de réponses, parce que quelque part, on avance un peu dans un roman un zombie dans la nuit, les mains tendues en avant, sans très bien savoir ce qu'on fait toujours. Et par ces questions, on finit par élucider le sens qu'on a voulu donner au roman. On arrête des blocs de signification. On commence à produire aussi l'intelligence de notre travail. Et non seulement c'est pas si difficile, mais quelque part c'est utile. Ça m'est utile pour comprendre ce que j'ai voulu faire vraiment. Parce que moi, je ne suis pas un concepteur, je ne conçois pas le roman en amont et puis après, j'appliquerai mon programme. Mais ça se fait dans l'écriture, à partir des personnages. Et finalement, ça n'est qu'à posteriori que je me rends compte de ce que j'ai voulu faire exactement.
Est-ce que, par exemple, vous êtes entendu répéter une phrase à force d'interview comme une espèce de gimmick ? Dans ce cas-là, on aimerait bien aussi l'entendre sur Radio-là, cette phrase.
Oui, alors effectivement, il y a un petit côté spectacle au bout d'un moment, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des phrases qui marchent mieux que d'autres, des résumés qui sont plus efficaces que d'autres. Et celui, finalement, que j'ai découvert chemin faisant, c'est l'histoire d'un... Ce roman, il raconte l'histoire d'une poignée d'adolescents qui débutent leur vie dans un monde qui finit. Voilà.
Ah bah très bien, ça serait une très bonne
punchline.
Ouais, ouais, c'est ça. Alors, Leurs enfants après eux est un livre réaliste sur l'adolescence, mais c'est aussi un ouvrage qui fait œuvre politique. Vous décrivez notamment plusieurs étages de mépris de classe sociale, un monde où chacun est finalement l'immigré d'un autre. Vous parlez même de l'échelonnement des humiliés. Vous avez vous-même grandi dans cette Lorraine post-industrielle que l'on vit de façon très organique dans le livre. Cette force du déterminisme social qui se retrouve un peu à tous les étages de votre ouvrage, ça semble être quelque chose qui vous a profondément marqué.
C'est difficile de déterminer exactement où naît cette sensibilité à ces phénomènes-là. Je pense que le point de départ, c'est mon expérience scolaire. C'est-à-dire que moi, j'étais un gamin de classe moyenne sans trop de culture et que mes parents, parce qu'ils en avaient les moyens et qu'ils voulaient que je m'élève socialement, m'ont mis dans des bahuts privés, en fait. Mmh. Et c'est là que j'ai expérimenté les écarts. Mmh. Qu'est-ce que ça fait d'être moins bien loti que d'autres, d'avoir de moins belles baskets que le voisin, de pas aller au ski alors que les potes reviennent bronzer au mois de février, des choses comme ça. Ça se caractérise par des petites choses au départ. Et puis, oui, ça s'est traduit par des humiliations, quoi, des petites blessures d'orgueil. Et puis, ça s'est poursuivi après dans mon parcours scolaire, c'est-à-dire que j'appartenais quand même à une famille où on me disait « si tu fais des études supérieures, tu trouveras du travail. Si tu travailles bien à l'école, tu pourras peut-être aller au lycée. » Enfin voilà, mon monde social était complètement décalé avec les réalités sociales du moment, c'est-à-dire que on me disait, si tu travailles bien, à l'école, tu iras au lycée, alors que 80% d'une classe d'âge avait déjà le bac. Et donc, j'ai fait un peu ce parcours universitaire et d'études supérieures en zombie. Et quand je suis arrivé sur le marché du travail, j'étais complètement décalé. C'est-à-dire que j'avais fait 6 ans d'études qui ne servaient strictement à rien sur le marché du travail. Et ça aussi, c'est une violence qui s'est exercée sur moi. Je me suis dit, mais merde, en fait, j'ai voué des années de ma vie et d'efforts pour un truc qui ne rapporte pas. J'ai investi à tort et à travers.
C'est un mensonge, en fait.
Alors voilà, c'est le voile qui tombe et c'est les mensonges du social qui nous apparaissent pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire, quand on veut, on peut. Si tu travailles bien, ça produira ses effets et tout. Et en fait, non, c'est faux. J'avais pas compris que la règle du jeu était beaucoup plus subtile que ça, qu'il fallait. J'avais investi à fond perdu. Cette violence-là, elle s'est traduite par des années de vache maigre, etc. Et voilà. Et puis après, je suis monté en tant, enfin, comme petit provincial à Paris. Et là, c'est d'autres humiliations qui sont jouées, installées. Voilà.
Ah oui.
Et donc, à la fin, il y a quand même la découverte de la sociologie et puis du romanesque, Annie Ernaux, Bourdieu, etc. Et c'est des outils qui m'ont permis de déconstruire tout ça.
C'est une nouvelle famille avec moins de mensonges à ce moment-là.
Je ne sais pas si c'est pas une nouvelle famille, c'est une alliance. C'est-à-dire que c'est une archipel d'alliés qui produisent du sens entre eux et qui, moi, m'ont permis de déconstruire les dominations dont j'étais l'objet et puis aussi de vaincre des hontes que j'éprouvais très fort.
Vous semblez aussi dresser une sorte de cartographie mentale de la misère. En tout cas, c'est un constat quand même. Non, ça ne vous plaît pas trop.
C'est le mot misère qui me dérange parce que je fais un portrait quand même. J'essayais de faire un portrait.
Oui, c'est peut-être
de...
un petit peu raccourci. Oui,
ouais, parce qu'en fait, il y a aussi des bourgeois, il y a des gens qui vont bien dans ce roman, il y a des gens qui s'en foutent, etc. Mmh. Donc, ce n'est pas un portrait de la misère, c'est le portrait d'une société. Qui fait avec un monde qui finit, celui de la désindustrialisation, mais tout de suite derrière, on voit le monde à venir qui émerge aussi. Et ça raconte le rapport des gens, selon leur classe sociale, à la fin d'un monde et à l'émergence d'un autre. Ce n'est pas uniquement... au début du roman, on parle beaucoup d'Anthony, et donc de l'ennui, de ses 14 ans, des veines dans lesquelles sont ses parents, mais... Tout au long du roman, il y a beaucoup d'autres personnages et d'autres aspects de cette vallée.
C'est pas la misère, mais ça reste quand même un constat assez cru, voire parfois un peu tragique, on pourrait dire des territoires de l'immobilité sociale. Et en fait, ces territoires, les adolescents qui sont dépeints dans le roman, ils souhaitent le quitter. Vous l'avez fait. Vous avez quitté cette Lorraine pour finalement y revenir vous installer. Qu'en est-il de ces zones post-industrielles que vous décrivez ? Donc, est-ce que vous les ressentez encore de la même manière quand vous y retournez ?
Oui et non. C'est-à-dire que cette espèce de présence fantomatique du passé industriel, elle s'amenuise petit à petit, plus ou moins selon les endroits. C'est-à-dire que quand on va à Hayange, c'est encore très, très, très fort, dans la vallée de la Fench, etc. En Lorraine, dans les Vosges, pardon, le passé textile s'amenuise aussi. Et puis à Nancy ou à Metz, à Nancy surtout, les gens n'ont plus rien à foutre, ils sont passés à autre chose. Il y a de la richesse qui est produite. Et s'il existe des formes de misère, elles sont d'un autre ordre, elles sont plus liées à la désindustrialisation. Donc en fait, ces questions-là des territoires, elles sont prises dans... J'ai l'impression de parler comme un géographe ou un politique. Elles sont prises dans des dynamiques.
Mais c'est
vrai
alors
quand
ça,
même. C'est-à-dire que...
Attention, on parlait creux quand même.
Mais c'est vrai qu'en fait, on ne peut pas avoir des visions fixistes des situations. Tout ça, c'est... Même au pire de la crise, il y a des gens qui tirent leur épingle du jeu et qui continuent à faire du pognon. Même au pire des moments de... Comment dire des moments de prospérité, il y a des gens qui crèvent la gueule ouverte. C'est comme ça. Ces régions ne sont pas condamnées, elles sont juste dans un creux très très fort, alors qu'elles avaient connu une prospérité énorme, en fait.
Vous avez quand même appelé ça des zones tues, c'est-à-dire des zones qui ne sont pas parlées.
Mais finalement, c'est moins les zones de la désindustrialisation qui sont tues que les zones de l'entre-deux. C'est-à-dire que j'ai l'impression, et après il y a des gens qui en parlent, mais c'est aussi l'intérêt qu'on leur porte qui fait que ce sont des zones tues. entre les grands comptoirs de la mondialisation, entre les métropoles, dans ces territoires qui ne sont ni des grandes villes, ni des zones. Ben là, c'est vrai que la mise en récit était moins importante, qu'on trouvait moins de romans, de films sur ces endroits-là. Il s'en est toujours fait, il s'en fait de plus en plus, mais surtout, j'ai l'impression qu'on s'y intéresse maintenant.
Parce qu'on gagne les prix Goncourt.
Voilà. Puis on sent qu'il y a quelque chose d'un peu explosif qui s'y joue. Ouais. Et notamment, au moment des élections, on voit bien la carte de ces territoires-là, elle est inquiétante.
Vous avez 40 ans, donc vous parlez de ces zones tues. Comment vous envisagez le futur de cet empire post-colonial qui semble, si j'ai bien compris votre écriture, avoir un peu abandonné ses enfants?
L'impression que j'ai, moi, de la France dans laquelle nous vivons, et qui est donc néolibérale, c'est que c'est un empire de l'efficacité et de la vitesse. Et que les endroits où ça va bien, et là où ça produit des choses positives, de la richesse, de la créativité, de l'intelligence, ça va aller de plus en plus vite et de mieux en mieux. Mais ce sera la portion congrue, et que tout le reste sera la ramasse, en fait, et que ce sera de plus en plus dur. Et ce qui me semble, dans cet empire de la vitesse et de l'efficacité, c'est que la liberté permet aux meilleurs de donner leur plein potentiel, mais que l'égalité exigerait qu'ils ralentissent un peu pour permettre au peloton de recoller, quoi, à l'échappée. Et qu'on n'en est pas du tout là et qu'on abandonne de plus en plus de gens en chemin. Et que ça va être de plus en plus dur pour une certaine partie de la population, qui est peut-être la majorité en plus.
Le découpage de votre livre en 4 saisons, 4 étés, où l'on suit des adolescents à divers âges de la vie, donne une impression très cinématographique. Dans votre premier livre, d'ailleurs, chaque chapitre est un personnage qui imprègne le style de l'écriture. Vous avez également coécrit l'adaptation de votre premier livre pour la télé. Vous avez dit tout à l'heure, lors de la présentation, que vous avez essayé d'être scénariste. Quel lien vous avez avec le cinéma exactement ?
Un lien très simple, c'est que déjà je raisonne en termes de personnages et de situations. Au cinéma, on dit action. Et c'est vrai qu'au départ, dans le roman, c'est ça que j'essaye de faire, c'est de produire des situations. C'est-à-dire ne pas trop penser, donner à penser. C'est aussi une tradition du roman noir. Le roman noir, au départ, il est behavioriste. C'est-à-dire qu'on fait agir les personnages pour qu'ils donnent à penser et qu'ils se donnent à voir et à comprendre. Après, c'est un procédé que je ne tiens pas jusqu'au bout parce que le narrateur, dans ce deuxième roman, il ne cesse pas de faire des incursions et de dire un peu ce qu'il pense aussi. Et puis, le cinéma, il est là dans la dramaturgie, c'est-à-dire que le roman est construit avec des lignes dramaturgiques fortes. Les désirs des personnages sont bien identifiés. On a envie qu'ils réussissent. On a envie qu'ils atteignent leurs objectifs. Ils sont sans cesse contrariés par des obstacles et puis ils naissent aussi souvent d'après des images. Alors, par exemple, Anthony, j'avais une image très nette de lui, un jeune homme torse nu, tête nue sur une moto qui va à fond de train sur une départementale. Voilà. Il y a ce
très documentarisante.
Alors le côté documentaire, il vient du cinéma mais aussi de la littérature, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est de sang-froid ou des choses comme ça aussi, c'est-à-dire rendre du réel. Et puis même Flaubert ou des gens comme ça quoi, qui sont intéressés à qu'est-ce que c'est que la vie qu'on mène.
La radio, parce qu'on est à la radio est très présente dans leurs enfants après eux. Elle semble être un lien entre toutes les classes sociales, une espèce de trait d'union, parce qu'elle est réellement dans la vie, hein, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez présent. Et la musique populaire aussi, qui résonne, elle aussi, partout dans l'ouvrage. Johnny, Diantel, Guns N' Roses ou encore Nirvana. Est-ce que c'est encore la musique qui vous fait vibrer, vous, ou c'est quoi la place de cette musique dans votre vie?
En fait, c'est
la radio aussi.
Ces chansons-là, c'est la bande FM, ce genre de truc. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait appel à une mémoire collective.
C'est ça.
Et qu'en citant ces chansons, je donne des bornes chronologiques et je convoque des sentiments immédiatement. Et comme je montre aussi la grandeur des gens, des vies minuscules, pour reprendre le terme de Michon, j'avais aussi envie de montrer à quel point par moments, ces musiques de rien, ces chansons populaires, elles ont aussi une verticalité de cathédrale et que ça devient des grands moments et des choses qui nous prennent aux tripes, quoi. Il y a un 14 juillet avec un slow sur Eros Ramazzotti. Ça a la même dignité que Bach à ce moment-là, pour les gens qui la dansent, avec ce que ça convoque chez eux d'émotions, de souvenirs, de mélancolie, d'amours échus et de vie dévorée, quoi. Donc oui, c'est des choses qui m'intéressent de montrer la grandeur de la culture populaire.
J'ai l'impression que vous nous offrez un récit finalement hyper générationnel qui appelle à l'identification des quarantenaires. Ça signifie quoi pour vous avoir 40 ans et être un peu en charge, puisque vous êtes auteur, d'écrire le monde aujourd'hui ?
Je ne l'ai pas fait pour que ce soit un roman générationnel totalement, mais c'est un effet collatéral qui me va bien, voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, pour les gens qui ont grandi, qui ont été ados dans les années 90, il y a un effet Madeleine qui marche à plein et ça me va bien, quoi. Mais je ne l'ai pas fait pour ça. J'ai choisi les années 90 parce que c'est une époque... J'ai fait coïncider le récit sur ma propre vie par facilité, peut-être. Et puis parce que ça n'a pas été tant raconté que ça, hein, et qu'il faut bien que quelqu'un s'y colle, quoi. Voilà. Mais ce n'était pas... c'était pas le fond du truc. Si j'avais été peut-être plus courageux, je l'aurais situé aujourd'hui et puis j'aurais dû faire une enquête sur comment ça marche l'adolescence aujourd'hui. Je me serais rendu compte qu'ils vivent de selfies, de tweets et de trucs comme ça, quoi. Est-ce que les personnages, dans le roman, ils vivent des amours adolescentes sans moyen de communication, quoi. C'est un autre monde complètement. Il n'y a pas un coup de téléphone qui est donné.
Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Merci à vous. Radiola.media.